Les épisodes de T'es pas un vrai fan podcast sont d'abord filmés pour YouTube,
puis ensuite transformés en audio seulement.
C'est quoi un vrai fan? Selon Julianne, là, tu peux connaître un refrain puis c'est bien correct. Moi, là, pour moi, il faut que tu connaisses bien plus qu'une seule chanson. Mais il y a une chose qui est sûre, vous allez entendre deux passionnés de musique qui vont déblatérer leurs connaissances. Est-ce qu'on connaît ton band préféré plus que toi? Oui.
Ben salut, moi c'est JP.
Moi c'est Julian.
Fait qu'on est super content parce que en cette fin d'année, on espère que vous passez des belles vacances du temps des fêtes. Des belles vacances.
Moi je suis un Grinch, j'espère que personne passe un bon temps des fêtes.
Mais en majorité, les gens aiment les vacances parce que justement ils peuvent se reposer. Mais nous autres, c'est important pour nous de faire un épisode aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, ben on vous invite officiellement au podcast T'es pas un vrai fan. Parce qu'on a trouvé notre nom.
Yes, finalement, un beau cadeau de Noël qu'on s'est fait de trouver notre nom.
Ouais.
Tu sais, bon.
T'sais... On se pose souvent la question, c'est quoi un vrai fan? Pour toi, un vrai fan bon, d'un
moi,
groupe?
Moi, je le dis toujours, il y a plusieurs types de fanning. Puis c'est vraiment, dans le fond, je pense que tout le monde va aimer un groupe à son rythme. Il y en a qui vont skipper des albums, il y en a qui
vont... Tu vois, t'as déjà changé. On a parlé avec les fans, là, t'as dit aimer un groupe. C'est pas la même chose.
Bon, OK. Toi, c'est quoi un vrai fan pour toi, Jean-Philippe?
Un vrai fan, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de juste connaître des singles. Souvent, j'ai rencontré des personnes dans des shows. Une fille m'a dit « Ah, j'aime beaucoup Avenged, tu sais, j'aime beaucoup Seas the Day. » Mais tu sais, Seas the Day, ça représente pas tout le catalogue d'Avenged Sevenfold.
C'est juste que je comprends ton point. Moi, selon moi, cette personne-là a quand même le droit de se dire « fan ». Moins que nous, peut-être. Je pense que t'as pas besoin de connaître tous les singles, tous les albums, puis ça fait que tu peux quand même être fan du band. Mais notre job à nous, c'est de vous donner, d'enrichir vos connaissances sur ce band-là, puis d'être intéressant en même temps.
C'est ça, le but de ça, c'est pas de partir une chicane entre qui est un fan ou pas, c'est juste justement de pouvoir vous procurer de l'information pour garder vos connaissances sur les bands sur lesquels on parle.
Ouais.
Et aujourd'hui, pourquoi on tenait à faire un épisode? Pour le fait qu'on s'est trouvé un nom, oui. Mais on souligne...
Un triste anniversaire.
Ouais, triste anniversaire. Ça fait déjà 15 ans que... Parce que le groupe qu'on parle aujourd'hui, c'est...
Avenged Sevenfold.
Avenged Sevenfold. Ça fait déjà 15 ans que le drummer est décédé de Rev, de son vrai nom.
James Owen Sullivan. Ou, bon, on sait bien, dans Avenged Sevenfold, ils ont toujours des noms assez particuliers. Mm-hmm. Et lui, c'était The Reverend... Tomomu Plague. Je l'ai vraiment mal dit parce qu'on l'a toujours appelé The Rev. Mm. Puis tu sais, ça c'est quelque chose qui est assez spécial. Puis c'est un épisode qui nous venait à cœur parce que, on s'en cachera pas, on a fait des épisodes sur Linkin Park et la nouvelle chanteuse. Et ça c'est vraiment quelque chose, un band qui perd un chanteur aussi iconique que Chester Bennington. Ou AC/DC Back in the Days, ou là j'en parle, mais plein de bands que le chanteur est décédé. Est-ce que ce band-là. À quel point ça a un impact de perdre le chanteur, mais quand c'est un drummer, est-ce qu'un drummer c'est remplaçable? Pourquoi ça, comment ça peut impacter tant que ça un band? Puis c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, parce que The Rev, c'était pas n'importe quel drummer.
On va avoir toutes sortes de drummers. Souvent dans les groupes, de ce que je connais des drummers, c'est souvent les personnages les plus effacés. Que ce soit en entrevue, que tu sais, juste le fait que sur une scène, ils sont souvent en arrière-plan. Souvent, on va mettre le chanteur parce que c'est souvent le membre que les gens connaissent le plus.
Sur les pochettes d'albums, sur les posters, ou c'est pas toi, justement, là, on le verra pas, mais ton poster d'Avenge là-bas, où que, les membres sont un peu plus effacés. Ou...
Ben, souvent, le chanteur est en plein milieu, c'est lui, puis on a tendance à croire même que quand le chanteur chante, vu que c'est lui qui chante, on prend souvent pour acquis que c'est lui qui écrit.
Ouais, et c'est pas toujours le cas, on va pouvoir l'explorer un peu plus dans cet épisode, justement.
Parce que le but, oui, c'est de souligner. L'anniversaire, voir comment c'est un membre qui avait un impact important sur le groupe, mais aussi on veut comparer justement le avant et après son décès.
Ouais.
Est-ce que le membre, parce que les membres du groupe à son décès ont pensé que le band allait se terminer là, mais vu qu'ils ont continué à faire la musique, c'est quoi la plus grosse différence entre avant qu'il meure et après?
Ouais.
Ça, on va l'explorer aussi.
Ça, c'est The Rev, je trouve que, il était 6 pieds 4, là, mais il était... très plus grand que nature. On l'a vu beaucoup dans comme les espèces de vidéos behind the scene.
C'était... On dirait qu'on... Souvent, moi, quand je le regardais, je sais pas, il était grand, il était long. Il était vraiment long.
Mais c'est parce que ça, dans Avenged, ils sont tous grands. Le Matt, il est 6 quelque chose. Since the Gate, il doit être 6 et 2. Matt, il est 6 piles, donnez-moi. Puis c'est ça, The Red, il est 6 et 4. Fait qu'on dirait... Bon, t'as Zachy puis Johnny qui sont minuscules. Mais on dirait vraiment que ça paraissait pas tant que ça qu'il était grand, mais il était grand. Puis on dirait qu'il prenait de la place.
Ouais.
Puis... c'était vraiment un personnage particulier.
The Rev, avant qu'il fasse partie d'Avenged Sevenfold, il était ami avec un des membres, il était plus ami avec un des membres en particulier, qui était le
Sinister Gates.
Sinister Gates.
Et Sinister Gates a rejoint Avenged Sevenfold plus tard.
Ouais.
Ils ont fini de record le premier album, Sounding of the Seventh Trumpet. Ouais. Sin, quand il a rencontré The Rev, il a vraiment tombé en amour avec ce gars-là.
Il l'aimait pas au début.
Il l'aimait pas au début, effectivement.
Parce que quand tu parlais du personnage, c'est ça le lien que je voulais faire. Ouais. Quand tu parlais du personnage, il le trouvait loud, trouvait exubérant, prenait de la place. Et ça en est venu à une bagarre des deux. Et c'est là qu'ils ont fait connaissance en détention, en retenue à l'école. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'ils aimaient le même genre de musique.
Tu sais que tous les parents, parce que c'est tous des amis du secondaire, et je les ai tous rencontrés en ces années-là, tu sais que tous les parents du temps de M. Shadow et de Johnny Crest, ils avaient tout dit à leur enfant. Jimmy, c'est le genre de kid que tu ne traînes pas.
Oui, c'est ça.
C'est le genre, tu sais, Matt, hein, ses souvenirs les plus vieux avec Jimmy, c'est ils étaient ensemble, puis ils sont dans un neighborhood, puis ils ont tous mis les poubelles à terre au complet de ce neighborhood-là, puis sauvaient des gens qui les poursuivaient, tu sais.
Ouais, fait que c'est rêve, quand...
C'est un troublemaker, man.
Puis quand sa mère parle de son fils, elle trouvait ça difficile d'élever ce gars-là, parce que quand elle chicanait, il riait.
Ouais.
Puis là, elle disait, arrête de rire, c'est pas drôle. Puis lui disait, mais moi, je trouve ça drôle. Fait que c'est dur d'essayer de doser cet enthousiasme-là en voulant lui inculquer quand même des valeurs.
Je sais pas si t'as déjà vu aussi, je t'ai coupé, je m'excuse, je sais pas si t'as déjà vu des photos de famille avec The Rev, qui est déjà full gothique, puis sa famille est full. Je vais essayer de retrouver la photo que j'ai vue, je la mettrai, je la mettrai ici. Je sais pas si je vais être cadré. Donc, mais non, c'est ça. Fait que The Rev. Sin aimait tellement The Rev que The Rev, il était dans Avenged, il avait été pris par Matt, puis il était pas vraiment sérieux dans le band, il l'a fait juste parce que...
Ben lui, The Rev, il jouait déjà avec des gars plus vieux, c'est pour ça qu'il a pas été dans Avenged tout de suite, parce qu'il jouait avec des gars plus vieux qui étaient plus avancés au niveau de la musique que les membres d'Avenged.
C'est drôle, hein? On n'est même pas encore dans le vif du sujet, mais j'ai écouté beaucoup d'entrevues en préparation pour ça, mais aussi souvent...
Faut pas que tu dis ça, faut que tu fasses semblant que tu connais tout sans avoir écouté d'entrevue.
Ok, coupe. J'ai écouté beaucoup d'entrevues dans ma vie avec Avenged Sevenfold. Et ils vont passer de... Tu sais, on parlait de leur surnom.
Ouais.
Ils vont passer de s'appeler par leur vrai nom. Fait que des fois, ils vont dire Brian, qui est Sinister Gates. Puis après ça, à un moment donné, ils vont juste dire Sin. Tu sais, puis même le père de Sinister Gates, il les a aidés dans les albums, puis il l'appelle Papa Gates.
Oui.
Fait que ça, c'est quand même drôle. Mais donc, c'est ça. Tout ça pour revenir à cette histoire que le Ben se créait, Avenged Sevenfold se créait. Puis The Rev était là, il croyait déjà un peu au Ben, mais pas trop sérieux.
Il était venu juste voir qu'est-ce que ça donnerait d'aller jouer même, avec eux, puis à m'amener.
Il a quand même enregistré l'album, le premier album. Ouais. Et Sin trippait tellement sur le génie de The Rev, qui a un peu joint Avenged Sevenfold pour passer plus de temps avec Jimmy. Fait que ça, c'est insane quand même, c'est
le fou, seul moment de Sin qu'on entend sur le premier album, c'est l'intro to M the Rapture. Ouais, c'est le seul moment qu'on entend Sin, parce que tout le reste de l'album, Sin n'est pas présent dans cet album.
Exactement. Je vais aller avec une dernière information qui est moins importante avant de rentrer un peu plus dans le vrai sujet, juste parce que je m'en suis écrit pour la dire. C'est drôle parce que Travis Barker, on en parlait quand il est rentré dans Blink, c'était un drummer pour un band ska qui s'appelle The Aquabats, qui est un band un peu genre loufoque, avec des thématiques spéciales. Et The Rev était aussi dans un band qui s'appelait Suburban Legends, donc entre 1998 et 1999. C'était un band de ska aussi, un peu aux allures loufoques. Donc j'ai trouvé ça drôle parce que, bon, Travis c'est un excellent drummer, The Rev c'est un excellent drummer, il est là le lien. OK? Cherche pas plus loin. Il est là, le lien.
C'est dit.
Non, mais je trouvais ça drôle de voir qu'il y avait un peu leur début dans le ska, tu sais. Puis les deux ont fait complètement différent. Mais c'est intéressant. Anyway.
Donc là, on avait la formation connue, c'est-à-dire avec M. Shadows comme chanteur, Sinister Gates, le guitariste, Zaki, Johnny et The Rev, qui ont gardé ce line-up-là intact jusqu'à temps que, finalement...
Ouais, sous ce line-up-là, ils ont fait... attends! Moi, la question qu'on se pose toujours, moi, Jean-Philippe, j'aimerais savoir comment tu as été introduit à Avenged Sevenfold.
C'est mon meilleur chum, Guillaume. On était en train de...
Ton meilleur chum?
Ouais, à part toi.
OK, parfait.
Parce que là, nous, on est des collègues, avant tout. On travaillait au métro, à l'épicerie et à la machine où est-ce qu'on punch les cartes. Il m'a fait écouter « I Want See You Tonight, Part 1 » de Avenged Sevenfold.
C'est mon choix, Guillaume, j'apprends.
Puis là, toi... Toi, tu te souviens pas exactement, mais c'est non, quoi moi, la première chanson?
On m'a introduit à Waking the Fallen quelques mois avant que Backcountry, le single, sorte.
Ouais.
À ce moment-là, de City of Evil. Donc, Waking the Fallen, je suis allé les voir en show au Metropolis en 2005.
Le 3 novembre 2005, mais on était au même show.
Oui, parce que on va en parler.
Parce que moi, le jour de ma fête, le 3 novembre 2005, ouais, il était au Metropolis.
J'ai détesté City of Evil à la sortie.
Ouais.
Waking the Fallen,
t'es pour pas moi seul.
Non, non, c'était The Shit. Et City of Evil, qui est maintenant considéré un de leurs meilleurs albums. Je me souviens, Backcountry, la première fois que j'ai entendu, j'étais comme, ah, c'est dégueulasse. Et en live, c'était insane. J'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, je me souviens plus qui m'a introduit, mais j'ai une petite idée, en fait, faudrait que je lui demande si c'est elle. J'ai été introduit à ça, puis je pense que c'est la même personne qui m'a introduit à Nightwish. Je suis vraiment content d'être allé les voir en 2005, cette année-là. Là. C'était un excellent show que je garde un très bon souvenir.
Ben, puis c'est un show qui n'a pas joué beaucoup de tunes, mais sur City of Evil, il y a des tunes qui sont très longues.
Ouais.
Puis quand tu dis que tu n'as pas aimé City of Evil, il y a beaucoup de fans que justement, ils ont quitté le navire
ouais,
quand City of Evil est sorti. Parce que Waking the Fallen, quand tu vois l'évolution au début, très, 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 très métal, beaucoup, beaucoup de gueulage aussi ouais, de la part de M. Shadows.
Ouais.
Après ça, dans Waking the Fallen, grâce à Sinister Gate, ils sont allés chercher un côté plus mélodique.
Beaucoup
ils ont,
plus mélodique.
Ils ont varié beaucoup ouais, plus de paroles chantées au lieu de juste du gueulage.
Ouais.
Finalement, à City of Evil, fini le gueulage, qui sont tombés plus hard rock. On parlait des genres tantôt.
Ouais.
Moi, Avenged, j'aurais de la misère à les classer comme un band metal, alors qu'ils sont encore classés
dans ce genre-là. Je pense qu'ils sont encore un band metal.
Je mettrais plus hard rock, moi.
Je pense que c'est encore un band metal de par les solos, de par le style de guitare. Mais effectivement, c'est un band que eux-mêmes ont vraiment haï se faire label parce mm-hmm, que faut pas oublier que c'est un band qui a fait le Vans Warped Tour. Et au Vans Warped Tour, ils ont quand même été genre très critiqués parce que c'est pas un band punk.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est un band, je pense, qui ont tout le temps un peu haï les labels,
voulant pas se faire étiqueter, sont allés d'un point de vue plus expérimental. Et c'est là qu'on a vu la place que The Rev prenait,
oh
parce
God,
que l'album blanc, quand t'écoutes, peu importe le making of, il a pris part à la composition des chansons, de plusieurs chansons ouais, sur cet album-là.
Mais ils l'ont laissé plus de place. D'ailleurs, l'album blanc, qui est l'album éponyme, 2007.
Ouais.
Donc, puis City of Evil 2005, puis Waking the Fallen 2003.
Ouais.
Donc, l'album, je suis vraiment bon à mes dates aujourd'hui.
Ça fait changement.
Ça me fait loin. OK. Donc, j'en fais encore des cauchemars. Mais c'est ça, donc l'album éponyme Avenged Sevenfold, un autre album que j'ai détesté à la sortie, qui est tellement excellent, qui est vraiment un bon album. Mais c'est ça, des fois moi, puis c'est pour ça qu'on a cette discussion là des fois, on va en parler dans des albums review, on se garde ça, mais des fois on écoute un album, puis sur le coup on aime pas ça, ou toi t'aimes pas ça, moi j'aime ça, puis des fois avec le temps il y a des albums qui vieillissent tellement bien.
Même si c'était expérimental, moi je pense que ça vient de la tête musical qu'il y avait en arrière de la oui, composition des chansons. L'album blanc.
L'album blanc.
Quand on parle de la composition de l'album, je pense qu'on...
On donnait beaucoup de cartes blanches à Jimmy.
Je pense qu'il faut parler un peu de A Little Piece of Heaven.
Pas de suite. C'est des tunes qu'on entend de Jimmy très, de belle façon à l'intérieur. Moi, j'adore la voix dégueulasse de Jimmy. Il y a tellement... On dit qu'un match Shadow chante du nez. Jimmy, c'est dégueulasse. Mais Chris, que j'aime ça. Je voulais pas dire Chris. Mais maudit que j'aime ça, sa voix dans des chansons.
C'est le ton nasillard bizarre qu'il faut que tu t'habitues.
C'est weird, man, j'aime ça.
Tu sais, puis ça, c'est un des rares que le drummer chante le refrain d'une chanson.
Ouais.
Dans Cody Call Acclaim, c'est lui qui chante le refrain. Puis on était un peu surpris. Moi, j'étais moins surpris parce que t'en as parlé tantôt avec Pigly Smooth, tu l'entends chanter. Ça, c'est son autre groupe avec Sinister Gates.
Ouais. Puis un autre duo de là qui a déjà été en avant.
Mais si j'avais jamais entendu
ouais,
Pinkly Smooth, puis j'aurais entendu Critical Acclaim avec la voix de The Rev, j'aurais capoté tellement, j'aurais...
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu Pinkly Smooth. D'ailleurs, c'est pas...
D'entendre ça, c'est weird.
On pourrait pas mettre de chansons de Pinkly Smooth dans notre playlist parce qu'il y en a pas, ça existe pas, c'est pas...
Mais moi, j'en ai sur mon iPhone. Bon, je sais pas
si je vais te dire... On peut pas les mettre parce qu'ils sont pas...
Les gens
sont
pas Spotify.
On donnerait des...
J'ai même essayé de le trouver sur eBay, cet album-là, puis j'ai pas trouvé.
C'est super difficile.
Il y a pas beaucoup de copies.
Non, exactement.
L'album Nightmare, qui était presque 100% écrit avant le jour fatidique du
ouais,
28 décembre
2009. Et ça, t'étais où, toi, le 28 décembre 2009?
J'étais chez ma fréquentation du moment, et c'est Guillaume qui m'a appelé pour me dire « Hey, va voir ça, The Rev est mort. » Puis je me rappelle, j'avais lu ça, puis... On en a parlé de la mort de Chester. C'est fou comment de la musique, ça vient nous chercher. Ouais. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. La musique vient tellement nous chercher. On aime tellement ça que quand un membre d'un groupe qu'on aime meurt, on dirait vraiment qu'on vit un vrai deuil.
Ouais.
Un vrai de vrai deuil.
Ouais, ouais, vraiment, honnêtement. Moi, c'était c'était le deuxième deuil de cette année-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année-là, il y a aussi Michael Jackson qui est décédé.
Aïe, aïe.
Ouais, c'est vraiment fucked up. Puis,
je m'excuse à tous les fans de Michael Jackson, mais je me rappelais pas de ça.
Non, mais puis c'est en juin 2009. Puis, je vais faire une parenthèse. Moi, la mort de Rev, ben, je vais répondre à ma propre question. Moi, j'étais avec mon ex à ce moment-là, puis je me souviens que je l'ai vu, puis j'ai été choqué, mais ça m'a frappé un peu plus tard. Il y a une affaire qui m'a toujours fâché par rapport à la mort de Rev,
ouais.
Vraiment énormément. Les Grammys. Les Grammys de cette année-là, 2010, en fait, donc en janvier 2010, ont vraiment snobé la mort de Rev. Parce que déjà, avant, j'étais un gros band quand même.
Oh, ouais, ben rendu là, ils étaient à leur top. Là.
Puis, fait que tu sais, ils ont tout le temps une section In Memoriam. Et là, il y avait Michael Jackson. Ils ont eu une section complète pour Michael Jackson puis Les Paul. Mais il y avait aussi, cette année-là, qui est décédé? DJ AM, qu'on avait parlé aussi. DJ AM, qui était le survivant. Qui était la
oui, oh, oui, c'est vrai.
C'était le survivant du plane crash, mais il est décédé aussi. Ouais. Donc, anyway, mais j'avais tellement été fâché que The Rev avait été snobé au In Memoriam des Grammys.
Hey, les Grammys 2009, c'était l'année...
C'était 2010, c'était le...
Ah, ouais, OK. Ouais.
Grammys 2009, c'est
Blink revient ensemble.
C'est Blink revient ensemble, mais...
Là, on parle, ouais, parce qu'il est mort en décembre, ouais,
c'est les Grammys 2010, okay. Janvier 2010.
Je fais là, hey, méchant de s'éveiller les Grammys, Blink revient...
Le 28 décembre 2009, on a The Rev qui décède à l'âge de 28 ans. Puis ça, c'est vraiment quelque chose... Un autre truc, moi, j'étais vraiment déçu. Il aurait pu se forcer puis mourir à 27 ans. Parce qu'il y a le fameux club des 27 ans. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le club des 27 ans, c'est toutes les personnalités connues qui sont mortes à 27 ans. Je vais en nommer quelques-uns. Là. Il y a Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse. Mais je fais une blague, on ne décide pas quand on meurt. C'est vraiment triste. Mais
il aurait pu faire partie de ce club-là.
On dirait que c'est ça. Je suis comme, oh, il s'est fait snobber aux Grammys. En plus, il s'est fait snobber par le club des 27. Tu sais. Il y a eu beaucoup de rumeurs que c'était un suicide.
Ah, puis ça... Rêve. Ça m'a fâché, mais au-delà aussi, je veux juste faire un point. Lui, il avait dit au père de Sinister Gates, on en a parlé tantôt, lui, il disait, il y a deux choses qu'il sait dans la vie, qu'il va être une rock star et qu'il va mourir avant 30 ans.
Mais c'est ça.
À cause de ça, il y a plein de monde qui ont pensé que c'est un suicide.
Exactement. Donc, officiellement, la première réponse qu'on a eue, c'était, il est mort de décès, cause naturelle.
Ouais.
Moi, ça m'a fait capoter. Cause naturelle. Le taux de 28 ans. Tu peux pas mourir de cause naturelle à 28 ans. Donc là, après ça, ils sont rétractés. Ça masque une overdose d'oxycodone, puis d'alcool. Puis apparemment, que le fait qu'il y avait un cœur enlargi n'a pas aidé.
C'est une condition
particulière. Puis là, bon, au moins, on était un peu plus...
Puis les produits que tu as nommés, c'était des painkillers parce que c'était vraiment des choses qui avaient été prescrites pour des douleurs qu'il avait. Donc, c'est un mélange malheureux, vraiment, on le dit. On a fait nos recherches. C'est un mélange malheureux.
C'est un accident.
C'est un accident. Puis moi,
mais en même temps, il y avait le coude très léger.
Ouais, il buvait beaucoup, puis ça l'inquiétait beaucoup ses proches, ça l'aidait sa mère. Même que Zaki, dans certaines entrevues, disait, même qu'à certains moments, ça le rendait triste de le voir boire comme ça. Il trouvait qu'il se magrenait beaucoup trop. Ouais. Mais ça rentrait dans le personnage de Rev aussi, que pour lui, il vivait la vie à 100 000 à l'heure.
Ouais.
Même qu'il me semble que sur sa pierre tombale, ça disait, il a volé dans la vie et il n'a jamais touché le sol. Tu sais, pour dire que lui, c'était tout le temps par en haut, puis il n'y avait jamais de demi-mesure, ce qui rendait justement ça dangereux, parce qu'il était aussi très explorateur en matière de drogue aussi.
Ouais.
J'aime
quelque chose que les boys vont continuer à faire avec...
Ouais, mais c'est pas la même chose. T'sais, lui, c'était plus au niveau du party. Tu sais, les boys, pour le dernier album, ça, c'était...
Micro-dosé.
Micro-dosé, mais The Rev, c'était vraiment au niveau... de comment il faisait le party, puis était explorateur. Tous les membres du band étaient très clairs. Jamais ils ont vu Jimmy, même s'il est allé à certaines désintox. Jamais ils l'ont vu tant comme un addict, Mais mettons qu'il ne se limitait pas.
Ouais,
exactement. C'est sûr qu'au niveau de la course à mort, le mélange, c'est un mélange malheureux, mais on n'est pas surpris que ça ait pu y arriver.
Non. Puis là, bon, c'est ça. Comme je disais, il y a eu des rumeurs de suicide.
Ça me gosse. À un moment donné, j'ai même vu
que ceux qui y ont cru.
Non, mais ça me dérange pas.
Pendant quelques temps.
Non, mais ça me dérange pas si tu crois à ça. Moi, c'est le monde qui font des vidéos avec des lyrics d'Avenged Sevenfold. Ils vont même aller chercher des lyrics de l'album blanc. dans Brompton Cocktail. Puis là,
d'ailleurs, Brompton Cocktail,
juste finir ce que je veux dire. Puis là, ils disent, c'est sûr que c'est suicidé. Regardez les paroles de ces chansons-là. Puis ils font un montage en regardant. Comment tu peux douter que c'est un suicide en lisant les paroles? Hey, gros, c'est parce que c'est des artistes. Ouais, tu peux pas tout relier. Mais pour lui, si tu crois pas que c'est un suicide en lisant les paroles, t'es un cave.
Ouais.
Ça, moi, ça m'a mis hors de moi.
On trouvera ce vidéo de ce gars-là, on le mettra dans les descriptions, vous irez le haïr avec nous.
Non, non. J'avais écouté Guillaume.
Mais d'ailleurs, Brompton Cocktail, c'est quand même ironique, un peu comme.
Ben, tu parles en plus de choisir de mourir. Dans cette chanson-là, ça dit j'ai le droit de quitter ma vie comme je le
veux. Ouais, puis c'est ça qu'il avait, il a quitté comme il voulait, puis.
Ben, il quittait comme il voulait. Non, c'est un accident, moi je pense qu'il voulait mourir.
Non, il pense pas qu'il voulait mourir, mais bon, il savait qu'il allait pas vivre past 30, puis c'est ça qui est arrivé pas mal. Puis tu vois, bon, là, une information qui est tellement folle, puis c'est connu quand même, mais 3 jours avant sa mort, il a apporté à Amy Shadows la toune qui s'appelle maintenant Fiction, mais dans le temps s'appelait Death.
Voici la dernière toune de l'album.
Voici la dernière toune de l'album. Et il est mort. La toune s'appelle Death. Il est mort 3 jours. Et ce qui est intéressant dans cette toune-là, c'est qu'ils ont gardé. Ils ont gardé la majorité de ce que Rev avait chanté puis fait. Donc, comme c'est une partie des mots, le vocal n'est pas toujours clair. Des fois, il mormonne beaucoup.
Ouais.
Mais moi, je trouve que ça fait le. C'est tellement une chanson spéciale. Moi, c'est une de mes préférées d'album.
Puis souvent, en show, ils vont choisir qu'est-ce qu'on joue. Parce qu'ils jouent tout le temps au moins une toune pour rendre hommage à The Rev. Soit ils vont jouer Fiction, soit ils vont jouer So Far Away, soit ils vont jouer A Piece of Heaven, qui joue beaucoup. Même Roman Sky, sur The Stage, fait rapport à la vie après la mort aussi. Ils vont choisir une toune là-dedans. Et Fiction... en show, ben moi je pense que je l'ai, non, je l'ai jamais vu
pas
en show.
Moi non plus, je me pose la question,
j'ai jamais vu en show. Mais j'ai vu des vidéos, puis ils l'ont fait souvent, puis d'entendre sa voix. Puis j'ai encore de la misère à ce jour de différencier la voix de The Rev et de Shadow dans cette chanson-là. Surtout quand ça marmonne, comme tu dis. J'ai de la misère à
je comprends ce que tu dis. Je pense que je fais la distinction, mais je comprends, je pense que ça m'a pris du temps à la fin. Même il y a des bouts qu'il scream, que je suis pas sûr, des fois c'est The Rev. Mais c'est ça, fait que puis cette chanson-là, si vous écoutez les lyrics, ça pourrait être une chanson de suicide. Honnêtement, ça pourrait être une note de suicide. Mais c'est ça, moi, j'y crois plus à ça.
Mais les membres du band, ils ont statué qu'ils avaient toujours été fascinés par les thèmes morbides, par la mort. C'était vraiment plus une toune qui montrait sa fascination envers la mort qu'envers un désir de mourir.
Sa mère est sortie en entrevue quelques fois pour demander d'arrêter de spread les rumeurs que c'était un suicide. Parce qu'elle était certaine que ça ne l'était pas.
Ouais. Donc, de trop read into les lyrics, justement, puis de se créer des scénarios en disant...
À un moment donné, je veux dire...
C'est comme si c'est des gens qui avaient voulu que ce soit un suicide tellement ça fit avec les tunes.
C'est ça. C'est pas toujours comme ça, la vie. Il est mort, c'est... Puis c'est normal c'est que ces gens-là explorent des sentiments quand ils écrivent. Ça ne veut pas dire qu'après ça, que c'est ça.
T'sais. Non, non. Donc, il est venu porter cette chanson-là en disant, c'est la dernière de l'album. Tout l'album était... toute la musique était écrite.
Ouais.
Et là, ils ont décidé de changer beaucoup les lyrics.
Était écrit par The Rev.
Ouais.
Puis c'est drôle, en fait...
60%, c'est ça que Johnny avait dit. 60% de l'album avait été écrit par The Rev.
En fait, j'avais lu, je pense, dernièrement 80%. Je me demande si je me l'étais écrit, mais
en grande partie.
C'était en grande partie. Puis ce qui est quand même assez insane, c'est qu'avant la mort de Rev, il avait dit qu'il voulait que cet album-là soit thématique et beaucoup plus sombre et beaucoup plus émotionnel. Avant sa mort.
Ouais.
Et boum, malheureusement, il décède. Et là, tu l'as dit, ils ont réécrit beaucoup de paroles. Il y a des chansons qui existaient déjà. Comme...
Pas la musique, mais ça, les paroles, ils ont réécrit pour rendre ça. Puis...
Parce que Buried Alive existait déjà, mais là, tu sais qu'il parle de The Rev.
Ils ont tout remanié les lyrics.
So Far Away, je pense que ça a été racheté par après. Mais fait que c'est vraiment... effectivement, il y a beaucoup de chansons qui ont été remaniées un peu. Puis c'est normal. À un moment donné, c'est ça, tout fait un peu comme...
Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix parce que sinon l'album ne serait jamais sorti parce qu'il n'aurait pas pu se mettre à travailler dedans.
Puis, je veux revenir là-dessus parce que c'est important, mais c'est un peu, je vais faire une parenthèse, après la mort de Chester Bennington, Mike Shinoda, l'autre membre de Linkin Park, a fait une carrière solo, puis son premier EP solo s'appelait Post-Traumatic, son premier album en fait solo, puis le monde a pas mal tout le temps... chaque chanson était comme, ça c'est à propos de Chester, ça c'est à propos de Chester. Puis à un moment donné, il a dit, guys, ça ne fait pas tout le temps être à propos de Chester non plus. Mais c'est vrai que c'est facile de un peu faire notre propre. Fait que, il y a un problème, il parle aussi dans Nightmare, que c'est pas à propos de The Rev, Mais on a l'impression, on espère que ce soit pour The Rev, mais ils ont été écrites comme ça aussi, tu sais.
Mais ils ont beaucoup mis les paroles suite à son décès.
Oui, elle a beaucoup changé. Ouais. Non, mais ça, ouais. Ça a été dit vraiment souvent ouais. En entrevue aussi, là, je suis d'accord. Ouais. Mais je pense qu'en plus, elle a... En plus de ça, il y a le collectif qu'on fait. OK, puis ça, c'est sûr que c'est pour The Rev. Puis parce qu'à un moment donné, on, un peu comme les gens qui prennent le suicide, un peu en considération, alors ça, c'est tu fais ta propre narrative. Donc, ton meilleur ami meurt.
Ouais.
T'as un bel avec. Ça fait 18 ans que tu fais ça. Comment tu continues là-dedans?
Ben, ils ont eu une période où est-ce que justement, ils pensaient que c'était terminé. Ils ne voyaient pas comment continuer. Et il y avait un soir, parce que après la mort de The Rev, ils ont dit que pendant des semaines, ils ont toujours campé en groupe.
Ouais.
Toutes les familles, tous les membres du band, ils dormaient tous dans un salon, sur ouais. Les matelas, dans le même endroit. Ils n'étaient plus capables de continuer leur vie.
Ouais.
Comme c'était tellement une personne forte qui les reliait ensemble, chacun se posait la question, comment on va continuer là-dedans? Puis pas juste pour la musique, on dirait que tous les membres étaient vraiment ébranlés. Tous les membres des familles, pas juste les membres du band, mais les membres des familles aussi. Et là, c'est M. Shadows qu'un soir, il y avait l'impression que The Rev aurait voulu.
Apparemment, moi, ce que j'ai vu, c'est que les parents à The Rev ont convaincu le reste du groupe. Apparemment, Kim Shallow était déjà down, les autres peut-être pas. D'après moi,
Sin. Il parlait d'une lune bleue, là, ouais. Comme d'un œil qui regardait. Là.
Mais d'après moi, Sin, ça devait être celui qui a le plus été difficile à convaincre, d'après moi. Là,
de... Ben, j'ai pas regardé la tune So Far Away, c'est la tune que Sin a écrite.
Ouais.
Pour l'album, pour ouais. The Rev, il faudrait faire des recherches, savoir quand elle a été écrite, cette chanson-là.
On le fera pour l'album review, ouais. Après moi, je serais vraiment curieux.
C'est bon, c'est rare que c'est toi qui me ramène à l'ordre. On fait ça sur l'album review, calme tes nerfs.
mais sur les parents, Rev ont convaincu, puis comme j'avais vu que Sin, justement, pas Sin, mais M. Shadow avait aussi dit The Rev aurait voulu qu'on continue. Mm. Moi, je les ai trouvés forts. Je les ai trouvés forts parce que, bon, il est mort en 2009, fin 2009, et l'album Nightmare sort en 2010, mais quel mois déjà?
C'est juillet.
Juillet.
27 juillet.
Insane, là.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Puis là, il était déjà beaucoup écrit, par exemple.
Il était déjà beaucoup écrit, mais imagine avoir à tour... Il a fallu quand même qu'il mixe l'album, il a fallu qu'il réécoute tout, il a fallu qu'il refasse les tracks, il a fallu... Et là...
Mais je pense que ça a été un moteur dans leur processus de deuil aussi.
Probablement.
Parce que c'est comme si au lieu de... Puis... On en a parlé au niveau de la célébration de sa vie. T'sais, on a souvent parlé sur Hail to the King, la chanson qui nous touche le plus, Saint James, quand on célèbre sa vie. Mais pour le deuil, ils ont travaillé sur l'album. C'est comme si, au lieu de juste mourn sa mort, ils étaient actifs dans un moteur tout en faisant leur deuil parce ouais. Que c'est l'album que leur ami avait écrit.
Puis il est présent dans l'album. Ouais. On a parlé de Fiction, on a parlé, il écrit Skull dans
Save Me.
Save Me.
Ouais.
Puis,
vraiment... ouais, parce que dans le booklet, il me semble qu'ils mettent une couleur
en différente. Rouge,
ouais, exactement, ouais, pour dire que c'est lui qui dit ces mots-là.
Puis, dans une version de Nightmare, t'as le démo aussi de Nightmare avec le drum track de Rev. Mais il est dans l'album. Moi, j'aurais voulu qu'il soit plus présent parce
que. Quand tu parles du drum track, ils ont recruté quelqu'un pour pouvoir faire ses drum parts.
Ça, c'est tellement important. Mike Portnoy, qui est le drummer de Dream Theater. Et qui était un idole.
Ouais.
Et Mike Portnoy a pas eu une job facile. Il a dit que lui, là, on the heartbeat, quand il se l'est fait demander, il a accepté. C'était comme certain qu'il le faisait. Il a pas eu une job facile. Puis les gars de Avenge, ils ont vraiment été... ils ont été difficiles avec lui aussi. Parce que Mike...
Ils ont jamais voulu lui donner une place officielle.
Ça, c'est normal. C'est normal dans le sens qu'il y aurait pas... Mais il a été... C'est plus... Pendant l'enregistrement, Mike, c'est un excellent drummer, et il jouait trop comme lui, puis pas assez comme The Rev. Il a vraiment fallu à un moment donné qu'il déapprenne pour réapprendre à jouer comme The Rev. Ça a été compliqué le processus, là. Ils en ont parlé beaucoup, on l'a entendu tout le monde. Puis effectivement, je pense que Mike, il s'est moins senti inclus qu'il aurait voulu, mais il a quand même fait la tournée avec eux au complet de Nightmare. Donc ça c'est super intéressant, mais il n'a jamais fait partie officiellement du groupe.
C'est pas facile, il n'y avait pas beaucoup de candidats parce que c'est pas facile de faire ce que The Rev pouvait faire.
Non.
Il y a même son. Puis là, si jamais là, il y a des amateurs qui jouent du drum, qui nous écoutent, écrivez-nous en commentaire parce que je suis pas sûr que je vais bien l'expliquer. J'ai lu que The Rev avait un move qui appelait le double ride
ouais.
Ou le octopus quelque chose. Mais...
C'est double quelque chose, mais je
me fait qu'il va changer le tempo d'une toune. Au début, moi, je pensais que c'était juste relié au double pédale, mais j'ai dû lire parce que c'est relié avec séparer ses deux bras, puis il part avec une. Mais
il part aussi de comme 6-8 à comme 4-6. Là, j'ai dit des chiffres.
Mais bref, c'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un qui joue du drum qui peut nous éclairer là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Ben. Je sais pas s'il y a beaucoup de drummers qui sont capables de le faire. Là, je suis pas assez calé au niveau des drummers de band, mais on sait que The Ref a des choses que c'est pas tous les drummers qui étaient capables de faire.
Non,
et de là que la liste des candidats n'est pas énorme, puis tant mieux si on peut réussir à trouver une de ces idoles qui a accepté autant de faire ses drum parts que d'aller tourer avec eux après. Parce que moi, la première fois que j'ai vu Avenged après la mort de The Ref, c'était avec le nouveau drummer officiel, si on peut dire, qui s'appelait Aaron Alger.
Puis ça, Aaron, je sais pas si t'avais fini ton
oui. Aaron, j'essaie de faire des liens, puis je te fais des passes, puis on
c'est ça. Ouais. C'est ça. Aaron, tu sais, bon, lui a juste fait Hell to the King, l'album. Puis
heureusement. Heureusement.
Ben, les membres du groupe, parce que maintenant, le drummer officiel, maintenant, c'est Brooks Wackerman, que moi j'adore.
J'essaie de Bad Religion.
L'ancien Bad Religion.
J'adore, Puis
Wackerman, en plus, tu sais, Wacky, c'est tapé, donc c'est quand même cool comme nom. Donc lui, il a pas besoin d'un surnom comme les autres. Mais j'aime sa personnalité aussi, je l'ai écouté en entrevue, puis dans le podcast.
Ben, il y a une énorme différence entre lui et Aaron, puis je vais te laisser finir, peut-être que tu vas me...
Ben, je m'en ai juste dit que Aaron, tu vois, les boys en ont souvent parlé, pas en mal, mais ils ont dit beaucoup qu'il était...
Pas en mal, mais...
Mais il y avait beaucoup besoin d'y pointer quoi faire, alors que Wackerman prend des initiatives et écrit avec eux.
Et voilà.
Et il est vraiment part of the band, tandis qu'Aaron était plus...
Aaron, ils ont dit que la méthode de travailler avec Aaron, c'était...
C'était un session drummer.
C'est comme par après, il dit, hey, voilà, on a fait ça, maintenant mets un beat là-dessus. Puis quand t'écoutes Hell to the King, quand tu te concentres juste sur le drum, c'est beaucoup moins, varié. Ouais. C'est puis là, je suis pas en train de dire que c'est facile, parce que je suis sûr qu'être drummer point, c'est difficile. Mais lui, il tombait dans des grands souliers à chaussée.
Grands souliers à chaussée.
et peut-être que...
Il devait se sentir petit dans ses culottes.
Ouais, c'est ça. Ses culottes étaient tellement petites.
Ses culottes étaient tellement petites.
Mais je veux dire que...
Si vous voulez comprendre, c'est le premier épisode, j'ai bafouillé quelques expressions.
Mais il est tombé dans une chaise qui était peut-être trop grande pour lui. Parce que on l'a... C'est sûr qu'on avait comparé. Parce qu'en plus, Nightmare, qu'on dit que The Rev a pas joué les parts, on était capable de le sentir.
Parce que ça avait été écrit par lui quand même. Les drum tracks...
Mais le drummer était quand même... était capable.
Puis, important, on parle que The Rev écrivait pour... cet album-là, mais...
Aaron n'écrivait pas.
Non, il écrivait pas, mais The Rev écrivait pas juste les drum tracks, il écrivait les instrumentales, le piano, aussi, c'est un pianiste,
oui,
The Rev, il écrivait les lyrics aussi.
Il participait à tout.
À partir de l'album éponyme.
Exact, c'est bon, on se complète, parce que les albums 1 à 3, bizarrement, malgré que CD of Evil est mon album préféré, The Rev a pas tant participé à l'écriture.
Puis moi, j'ai adoré Nightmare à première écoute, la tourne et l'album. Ouais. C'était la première fois que j'aimais un album d'Avenged Sevenfold tout de suite à la sortie, parce qu'ils m'ont toujours un peu pogné d'un côté. Mais
c'est l'album qui a été le plus attendu, avec justement la mort de Rev, tout ce qu'on a parlé.
Puis c'est un album qui revenait un source un peu, parce que ça ressemble beaucoup à CD of Evil. En termes d'écriture.
T'es magnifique. Tu m'en parles à CD of Evil parce qu'il y avait un lien avec Nightmare et CD of Evil.
Oui.
Quand ils ont écrit l'album blanc, évidemment, quand tu dis que c'était moins bon, en comparant à CD of Evil, tu sais, on va souvent s'obstiner, puis toi puis moi, on l'a déjà fait. Quand c'est différent, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Parce qu'Avenge sont forts là-dessus. Mm-hmm. Ils veulent pas répéter les mêmes albums.
Non.
Puis parce que c'est différent, on dirait qu'Avenge veut toujours nous faire croire que c'est meilleur parce que c'est différent. Quand ils ont fait Nightmare, il y avait un objectif de faire des chansons plus longues, comme il y avait sur CD of Evil. Ils mettent... Parce que sur CD of Evil, ce qui leur avait fait mal, c'est qu'ils avaient mis tellement d'énergie en studio, quasiment des journées de 16 heures pour sortir cet album-là. Finalement, ça l'a fait pouet au début. Avec Nightmare, il y avait eu beaucoup de temps et il y avait hâte, justement, de remettre à ces sources-là. Parce que il y a des. À part Little Piece of Heaven, qui est quand même long sur l'album.
Et pour l'album éponyme, c'est des tunes de 3 minutes.
C'est deux albums complètement différents.
3, 4, 5 minutes.
T'sais, à la limite, quasiment, en mon CD, quasiment plus punk rock.
C'est deux albums complètement différents.
Fait qu'ils étaient revenus en studio, puis leur objectif, c'est de sortir un album culte en mettant de l'énergie autant qu'il y a eu pour CD of Evil.
Puis moi, je dis souvent.
Il y a toutes sortes de fanées.
Il y a toutes sortes de fanées. Il y a beaucoup de choses que je dis souvent, en fait. Mais Tu sais, souvent, on parlait, ah, moi, mon album préféré, c'est telle affaire, puis moi, mon album préféré, tu sais.
Ouais.
Des fois, moi, pour moi, un album préféré, ça va pas nécessairement dire que c'est le meilleur de la discographie d'un band.
Ça va être relié à une époque aussi.
Ça va être relié à une époque, relié. Je pense que Nightmare, c'est dans leur meilleur, mais c'est aussi le fait que tout alentour de la mort de Rev et ce qui fait l'album.
A fait mousser sa popularité beaucoup.
Ouais. Mais c'est aussi moi, c'est ça qui a fait que j'ai aimé cet album-là. Puis j'ai réussi à convaincre des gens à réécouter cet album-là. Puis à donner une deuxième chance à cet album-là. En leur parlant de ma passion pour The Rev. Puis du band.
On va toujours se demander si l'album a justement été meilleur qu'il l'est à cause de toute l'histoire, ben peu, la mort et tout. Là.
Un peu comme le score que Heath Ledger avait gagné pour le Joker, pour The Dark Knight.
Ben, je sais pas, il était nominé contre qui, mais il était cœurant.
Je me souviens plus, mais non, il méritait. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était par la mort. Mais anyway, fait qu'on,
on déroge un peu. Donc, il faut quand même mentionner, malgré qu'on est un peu gêné de le faire, parce qu'on y a pas assisté.
Oh, mais man.
Le premier show qu'ils ont fait après la mort de Rev, ça a été
à Montréal. Donc, le premier show est fait avec Mike Portnoy derrière le drum.
Ouais.
C'était Heavy MTL.
Ouais.
C'était le 25 juillet 2010. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Parce que je suis un fan depuis vraiment longtemps. Je sais pas pourquoi.
On en a souvent parlé, puis on arrive à se dire comment ça on est passé à côté de ça. Moi, je pense...
Puis l'album, je l'ai adoré. En plus, je l'ai écouté à la sortie. Je comprends pas.
Mais là, faudrait voir. Est-ce que c'était après la sortie de l'album ou avant? Parce que là, je me rappelle pas de la date. Mais Heavy Montréal, il me semble, c'est au mois d'août. Fait que je pense que l'album était
sorti. Non, mais Heavy Montréal, c'était le 25 juillet 2010.
25 juillet. Ah, fait... OK, fait que c'était deux jours avant. Mais ils ont sûrement joué les nouveaux. Peut-être. Ils ont joué dans le même. Ben, peut-être. Mais...
J'ai pas entendu l'album. Des fois, moi, c'est ça qui arrive. Quand j'ai pas entendu l'album, j'ai moins le hype. Ouais. Je devais avoir écouté, ouais.
Mais outre le fait, je sais qu'avec Guillaume, à l'époque, quand on allait voir des shows, les festivals, ça nous intéressait un peu moins parce qu'on sait que les bands jouent moins longtemps dans un festival. Mais pareil!
Je veux dire, c'est leur premier show depuis... Comment c'est à Montréal? Puis ça, il en parle encore. J'écoutais parce que Avengers, il y a un podcast, Tracks.
Ouais.
Il y a beaucoup de mensonges dans ce podcast-là, mais je vous
disais... De mensonges?
C'est une blague parce qu'ils ont dit... Ils disent...
J'ai commencé à croire ce que j'entendais là-dedans.
Non, parce que... Parce qu'ils ont dit qu'elle allait sortir un épisode par mois, puis c'est pas vrai. Mais c'est pas... C'est
une moi, là, les podcasters qui sortent pas des épisodes régulièrement, là, je les trouve BS.
Moi aussi. donc Tracks, le podcast Avenge, c'est officiel avec eux. Ils parlent avec le host. C'est vraiment intéressant. Mais puis ils l'ont mentionné plusieurs fois que le premier show pour eux, c'est vraiment important parce qu'ils se souviennent que c'est à Montréal.
Ouais.
C'était la première fois qu'ils montaient sur scène.
Puis même quand Mab est sorti, tu sais, le plus gros écart entre deux albums, ça a été entre le plus récent, Libad, Life is Ballroom, et The Stage, qui a quasiment eu un gage de presque 6 ans. Ben, The Stage, c'est 2016, puis Libad, c'est
2022
ou 2023?
2023. On va aller voir en show, 2023.
Fait que c'est presque 7 ans d'écart.
Ouais, 7 ans d'écart.
Puis, vu que ça faisait longtemps qu'Avenge n'avait pas sorti un album, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui n'a pas aidé, malgré qu'il y a plein de bands qui sont devenus actifs, contrairement à Avenge, ça c'est une autre histoire. Mais, quand ils ont fait l'espèce de vidéo teaser, parce que, tu sais, il y avait eu un décompte, un peu comme Linkin Park. Ouais. Mais, tu sais, contrairement à Linkin Park, Avenge, quand ils ont fait un décompte, il se passait de quoi à la fin du décompte? Puis là, ils ont fait une annonce, puis ils ont encore parlé. Ils ont vraiment mentionné encore ce show-là à Montréal, comment ça a été marquant. Zachy Vengeance, qui est l'autre guitariste du groupe, lui, il a même mentionné dans le podcast que tu m'avais écouté, super intéressant, l'épisode Welcome to the Family.
Ouais.
Il disait qu'il espérait quasiment que l'avion s'écrase.
Oui, je me souviens.
Il se demandait vraiment comment il allait réussir à faire ça. C'est comme s'il était encore dans le doute, est-ce que le band devrait continuer?
Puis ce qu'ils ont aidé, c'est de réaliser que le deuil vivait avec les fans aussi.
Oui, ça c'est Mr. Gates qui avait parlé.
Ça les a aidés à... Parce qu'à un moment donné, quand t'es une personnalité publique, nous on sait c'est quoi. quand t'es une personnalité publique...
Est-ce que 200 views,
Quand t'es une personnalité publique, tu commences à t'sais, tu réalises à un moment donné que t'as d'autres gens aussi.
Que t'as un impact bien plus gros que tu peux penser sur les gens. Tu sais, on a parlé des deuils tantôt quand un artiste mourait.
Puis quand t'es un artiste, c'est ça, t'as des fans. Puis à un moment donné, tu réalises que tu n'es pas seul. Tu sais que t'es pas seul parce que t'es ta famille. Mais à un moment donné, tu réalises que t'as d'autres gens dans le monde.
T'sais, partout dans le monde,
ça les a touchés. Ça les a touchés. Puis justement, j'ai hâte de voir. Là, on est quelques jours shy away from le 15 ans officiel. J'ai hâte de voir. Si Avenge ont préparé quelque chose, sinon c'est pas grave. Mais ça reste que c'est ça.
Nous, on va avoir fait quelque chose. Nous, on va avoir fait notre part.
On va taguer M. Shadows.
Mr. Shadows.
Donc, on vient un peu à ce qu'on disait.
Ouais, puis c'est ça. Ben, juste pour conclure, parce que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais. Sin, justement, il disait, nous, on a eu la chance de faire notre deuil ensemble, tous les ouais. membres du groupe ensemble, mais tous les fans à travers le monde, ils n'ont pas eu de show pour se rassembler ouais. ensemble. Tu sais, oui, entre amis, tu sais... T'sais, nous, on a tous nos amis proches, on a parlé, t'sais, ouais. la mort de Chester, on a fait ça entre nous. Mais tous les membres du groupe réunis, c'est la première fois que tout le monde pouvait se prendre en disant « On a perdu le membre de notre groupe préféré. » Ben, en sous-entendant que ceux qui vont voir Avel, c'était pas leur groupe préféré, mais c'est un groupe qu'ils aiment. J'ose espérer quand tu vas voir un
peu. Tu peux avoir aussi un peu. Tu peux avoir plus qu'un groupe préféré.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pour donner la chance aux fans.
Comme tu peux avoir plus qu'un autre meilleur ami. Hein, Guillaume?
Oui. Ça permet aux fans de finir leur deuil. Mais j'imagine que quand t'es un vrai fan, tu vas voir un band, tu
ouais.
les aimes.
Ouais.
Minimum.
Mais oui, mais c'est. En tout cas, je regrette de ne pas avoir été à ce show-là. Ouais, c'est le genre de choses que si je peux retourner dans le temps, je le ferais. C'est vraiment ouais. comme. J'aurais voulu être là, le vivre avec eux.
Ouais.
Mais si je rencontre MC Shadow un jour, je vais lui dire que j'étais là.
On peut. Comme diraient les Denis Drolet, on s'entend que c'est un souvenir commun.
Exactement. Juste vous dire qu'on est très transparent dans ce podcast-là, mais on s'est parlé avant d'enregistrer en se demandant si on allait vous mentir et vous dire qu'on était à ce show-là. On a décidé d'être très honnête.
Parce que, tu sais, surtout quand on vient d'annoncer que le titre du podcast, c'était un vrai fan. Là, on veut dire qu'on est des fans d'Avenge, qu'on n'est pas allé à ce show-là.
On n'était pas des. C'est... Ce moment-là, on n'était pas des vrais fans.
Donc, parlons de la suite maintenant.
La suite, donc.
Parce que là, oui, on a aimé Nightmare, mais The Rev avait écrit beaucoup. Et donc, ça. Il y avait encore une partie. Fait que là, on passe au après. Maintenant, le Avenge, sans The Rev.
Ça... Qu'est-ce que c'est senti?
Qu'est-ce que c'est? Oh.
Qu'est-ce que c'est?
Hell to the King.
Ouais. Ah, c'est un album, mais il y avait besoin de ça. C'est un album qui ont fait le plus simpliste ever. J'ai jamais vu un album aussi simple. Même The Rev, souvent, Sin va dire souvent en entrevue qu'il est même pas fier de ses solos de guitare de cet album-là.
Sin est rarement fier, hein?
Mais ça manque beaucoup de personnalité.
Exactement.
Ça manque de The Rev. Puis moi, mon highlight de cet album-là, c'est la tune St. James qui ont fait... En honneur à The Rev.
Qui était une tune bonus.
Qui est une tune bonus.
Une version spéciale.
Qui aurait ouais. dû être une tune officielle. Qui l'est, dans mon cœur à moi.
Le reste, c'est des bons musiciens. Fait que tu vas pas dire que non, tout est dégueulasse. Non, mais quand exact. Tu compares à leur autre chose. Donc, le seul album avec Aaron, ça a été celui-là.
Ouais.
Et ensuite, pour The Stage, qui a été une sortie surprise en 2016. Ouais. Tu parlais tantôt que Health the King, je sais pas ce que t'avais dit au niveau que c'était pauvre ou peu importe ce que t'as dit par rapport à l'album, mais The Stage, il y avait un concept. Ça paraît qu'il y avait une idée claire de ouais. ce qu'il voulait faire et qui est de loin meilleur. Est-ce que c'est parce que justement, il y avait plus un esprit de création beaucoup plus uni que on écrit, le drummer fait après, non, comme t'as dit, Brooks Wackerman, ouais. le premier album qu'il a fait avec Avenged et celui-là, un tout beaucoup plus... cohérent, très très bon.
Et j'ai trouvé que The Stage, parce qu'il y avait un concept, ça l'a moins paru. De toute façon, c'était très tellement différent de Hail to the King.
Ouais.
Moins paru. La tune The Stage sonne quand même comme du bon vieux Avenge. Le reste de l'album, c'est mitigé. Mais là, ça nous amène après ça à, bon, il y a eu un jump de 7 ans.
Ouais, parce qu'il y a eu la pandémie.
Life is but a Dream, qui ouais. moi est un album que j'adore. Toi, je sais que t'es un peu moins aimé.
Parce que je suis pas un vrai fan.
Parce que t'es pas un vrai fan. mais ça, moi, je vais dire quelque chose qui est super intéressant.
Attends, là, tu vas le dire, puis je vais juger si c'est super intéressant.
Jimmy The Rev Sullivan a des crédits, des writing credits sur la tune Mattel et Beautiful Morning sur l'album Life is But a Dream. Donc, techniquement, le dernier album qu'il a officiellement écrit, c'est Nightmare. Mais techniquement, dans cet album-là, il y a aussi des writing credits. Fait que c'était le fun qu'il était, il a participé d'une certaine façon à cet album-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien.
Ah, puis M. Shadow dit aussi, puis ça, j'en doute pas, quand il dit « Je suis sûr que The Rev aurait aimé l'album », ça, moi, j'en doute pas
qu'il aurait aimé. Moi, je suis sûr qu'il aurait adoré.
Moi, c'est quand, tu sais, on voulait un peu comparer le avant et le après. Moi, j'ai souvent dit, puis je persiste et signe, je pense que Avenged Sevenfold, il avait à peine frôlé le potentiel qu'il pouvait avoir, parce que The Rev, quand il est décédé, il était on a roll. Il avait écrit l'album blanc presque au complet. Nightmare... presque au complet. Puis là, on se disait, bon, ben maintenant qu'il a pris cette ère-là, c'est quoi la suite pour Avenged? Parce que je trouve, on en a parlé au niveau des styles musicaux, ça va toucher beaucoup plus de styles. Un peu comme Linkin Park, quand il avait sorti Hybrid Theory en 2000, ça rassemblait tellement de gens qui aimaient le rap, qui aimaient le métal et tout. Moi, je pense que si The Rev n'était pas mort, il serait devenu plus big que
Metallica. Non, je pense que Avenged Sevenfold...
Là, tu m'as coupé, je vais juste être certain qu'on ait bien entendu. Je pense qu'il aurait été plus big que Metallica.
Je pense qu'il aurait été plus big que Metallica.
J'ai failli te recouper le deuxième point. Je pense...
tu veux pas perdre ton idée?
Je pense que Avenge avec The Rev puis sans The Rev aurait vraiment été deux chemins différents. On le saura jamais, mais je suis d'accord avec ça. Plus vite que Metallica, je suis pas Metallica, c'est vraiment... C'est pas mon... Moi, c'est loin d'être mon band préféré. C'est un bon band. Mais là, leur dernier album était pas tant bon. C'est un... Je pense pas qu'elle était aussi big que Metallica. Dans... Mais big, oui, mais...
Il aurait sûrement été plus big qu'ils sont maintenant avec.
Ça aurait été... Oui, probablement. Ouais. Ça aurait été... Puis peut-être que ça aurait été plus dans mes cordes parce que moi, j'adorais ce que The Rev emmenait au band. Mm-hmm. Mais c'est quand même dans mes bands préférés. C'est quand même... Je peux pas dire que j'aime pas leurs trois derniers albums puis que je les écoute pas. Mais moi, j'ai adoré Life is But a Dream. Mais ça reste que le artwork de Life is But a Dream, on peut en parler, comment c'est magnifique.
Ben, on peut le regarder un peu, c'est juste dommage parce que tu l'as pas en gros.
Non.
C'est un des, c'est un des rares. Les gars, si
on a le vinyle, si on voit ici, mais
si on l'a ici, de toute façon, on va sûrement faire des
vidéos d'abord. Je vais mettre une image.
Ah, pour vrai?
Mais, ben, comme j'ai fait avec...
Tu vas mettre où l'image ici?
Ici.
Juste
là. Ici. mais peut-être, je sais pas si on voit... je viens de dire qu'on va mettre une image. L'artwork de Nightmare,
oui.
Tout le monde le sait ou pas, mais ils ont mis Forever. Et ça, ça a été la grosse signature de tous les fans.
Ah, ben oui, oui, oui.
Ils ont mis Rev dans Forever, ils ont mis les lettres REV pour The Rev en plus gros, parce que c'était comme une façon de.
Moi, j'ai toujours trouvé qu'il coupait un petit peu trop ce jeu de mots-là, comment ils trouvaient ça. Hey, c'est vraiment hot, là. Je trouvais qu'il trouvait un petit peu trop là-dessus.
Ok. Moi, j'irais.
Je comprends l'attrait, je le comprends l'attrait. Ouais.
Mais
t'sais...
je pense que c'est leur façon de. Un peu de gagner respect. Je fais... Moi, je pense qu'on est, proche à conclusion. Je pense qu'on a fait le tour.
Ouais.
Mais il y a une affaire qu'on avait dit qu'on viendrait dessus, c'est A Little Piece of Heaven.
Oui, c'est vrai.
Juste, je pense que c'est important. On parlait de Rev, on parlait de ce qui a amené. Parlons un peu de A Little Piece of Heaven.
Little Piece of Heaven, c'est la toune que beaucoup de gens vont dire maintenant. Puis je pense que ça, c'est parce qu'il est mort. Vont dire que c'est la meilleure toune d'Avenged Sevenfold, A Little Piece of Heaven. Moi, je comprends... la complexité, je comprends la... au niveau de la toune, ça va, c'est vraiment, c'est une toune spéciale. On se le cachera pas, c'est une toune qui est spéciale, qui ressort des sentiers battus. Quand on parlait qu'il avait apporté beaucoup à la création, là, il est vraiment allé dans son univers, au niveau que ce soit la mort, que ce soit le meurtre, la vengeance, puis on dirait même la nécrophilie.
On dirait pas même, il y a de la nécrophilie. Non, je pense que le vidéoclip est très explicite aussi là-dedans. Là.
Exact. Puis tu sais, il y en a qui disent que c'était un peu la version horreur de L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ouais. Nightmare Before Christmas pour les gens qui écoutent le film dans la langue originale.
Oui. Ben, c'est parce que j'étais pas certain en anglais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit ça. On a parlé de Walking Disaster de Sum 41 ouais. au niveau de l'amour que le band a pour la chanson et à quel point nous on l'aime. Je te dirais que je l'écoute des fois. Peut-être quand je goûte l'album au complet, je l'écoute. C'est rare que je. Mais.
Moi, c'est. Little Piece of Heaven, là. C'est le Bohemian Rhapsody de Queen. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Bohemian Rhapsody, c'est une excellente chanson. Tout le monde s'entend pour dire que c'est une excellente chanson. Tu ne skippes pas Bohemian Rhapsody. Elle est jouée à radio, tu ne changes pas de poste. Tout le monde connaît les paroles par cœur, mais elle a trop joué. On l'a trop entendu, puis ça en vient qu'à un moment donné, tu réalises même plus que c'est une bonne chanson. Nous, on est allé voir Avenged Sevenfold en show plusieurs fois. Il n'y a pas une fois qu'ils n'ont pas joué que les fois qu'on est allé. Moi, en tout cas, il n'y a pas une fois qu'ils n'ont pas joué A Little Piece of Heaven, sauf toi, je pense, à Toronto.
Ouais, j'ai eu la chance au mois de mars 2024, ils l'ont pas joué, mais ça, ils l'avaient un peu annoncé, ils disaient que...
Parce que toi, t'as vu trois shows, nous, on a vu deux shows de Life is But a Dream, mais toi, t'en as vu trois, techniquement, officiellement.
Ouais, ben, la seule raison pourquoi je suis allé voir lui de Toronto, parce qu'on a vu ensemble à New York, avec
Ryan Rivers,
après ça, Montréal, au mois
de juillet. Montréal, 30 jours à part.
Puis après ça, je me disais, bon, là, une troisième fois à Toronto, on va se calmer, mais là, paf, il annonce, on va jouer, on va changer notre setlist, puis on va jouer...
Nous, c'était décevant, parce que moi, je pense que j'aurais vraiment aimé à New York, j'aurais vraiment aimé qu'il joue l'album au complet, parce que c'était vraiment, c'était un show spécial.
Ouais.
Puis, finalement, à New York, ils ont joué leur setlist. Puis à Montréal, oui, c'était 30 jours après.
On dirait que même au niveau de la salle, ça marchait pas.
C'était le même setlist. Fait que moi, j'ai trouvé ça très décevant pour ça. Mais le trip en chum, c'était écœurant. Là. C'était vraiment cool d'y aller à New York, de le vivre à New York, puis de le revivre à Montréal. Parce qu'on est allé les quatre mêmes amis, dont Guillaume, ton meilleur ami, et notre ami Mathieu, qu'on aime beaucoup. Donc, c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait.
Ben, au niveau du processus créatif, puis...
Mais
quand tu allais avec Ballroom, vraiment, il dit, on est allé loin dans le processus créatif. Vraiment, tu peux pas nier que c'est un album complètement différent.
Ouais.
Donc, il faut lui donner plus de chance, comme tu me dis souvent. Il faut sûrement lui donner plusieurs écoutes.
Ouais.
Mais je continue à
penser... Parce que j'étais à plusieurs personnes qui n'ont pas aimé en première écoute aussi, là.
Mais tu sais, le monde qui font juste ça, c'est de la merde, tu sais, j'ai un peu...
Ouais, ouais, mais tu peux pas te trouver que c'est de la merde. Tu peux te trouver que ça vient pas dans tes codes, mais tu peux pas, en tout cas.
C'est ça. Mais je continue à penser que même si The Rave aurait été thrill par cet album-là, au niveau du processus créatif, ils sont allés très loin. Je pense que Avenged Sevenfold, sans The Rave, ne pourra pas aller au niveau qu'il aurait pu aller avec lui. Je vais continuer à les suivre, ça reste
mon... Moi aussi.
Ça reste mon band préféré.
Mais moi aussi, en fait, c'est ça, c'est que je suis 100% d'accord avec toi, c'est que Avenged va jamais... Bon, je l'ai pas mentionné, mais moi, The Stage, c'est un album que j'ai skippé un petit peu. Je l'ai jamais vraiment écouté. Je me suis jamais assis à l'écouter de A à Z. On dirait que Hell to the King m'avait un peu traumatisé parce que Hell to the King manque tellement l'étincelle spéciale.
Donne-y une chance à The Stage.
Oui, oui, je vais y redonner une chance.
Ça parle beaucoup de l'humanité en général.
Je vais y redonner une chance, c'est certain. Puis je l'écoute, là, je l'écoutais souvent en shuffle. Fait que juste pas. Mais ce que je veux dire, c'est que. Moi, Libad, tu vois, est revenu chercher un peu quelque chose en moi que j'avais perdu avec les années.
Ouais.
Mais effectivement, si je m'assois avec mes propres idées puis que je me mens pas à moi-même, Avenged sans The Rev viendra jamais me rechercher comme Avenged sans The Rev.
Avec The Rev, tu veux dire?
Ouais, ouais. Excuse-moi. Ouais. Ce qui est complètement weird parce que j'aurais pensé la même chose de Linkin Park. Parce que moi, j'ai adoré... Moi, en ce moment, je trive sur post-Chester puis j'adore Chester. J'ai adoré Chester, moi j'ai jamais été autant peiné quand un artiste est décédé. Puis pourtant, moi je trouve que Linkin Park, c'est un chanteur, c'est différent, c'est fou. Mais Linkin Park, mais en même temps, Mike Shinoda, le gars qui écrit toutes les tunes, est encore là. Donc, on dirait que ça, moi je suis full excité pour le post Linkin Park, post Chester, mais Avenged, ça l'a baissé beaucoup depuis The Rev. Libad est revenu.
Mais je pense que c'est toujours resté quand même, puis ça c'est une qualité que tu as, ton ouverture est très grande par rapport à on va de l'avant, puis toi tu vas passer plus rapidement à moi je regarde vers l'avenir. Ouais. Arrêtez-moi de me faire chier avec c'est pas comme avant, c'est pas comme avant, tu sais, mais toi t'es plus ouvert à dire, mais ça veut pas dire que ce sera pas bon.
Je vais dire comme j'ai dit pour Linkin Park, j'ai dit si vous êtes pas content de la nouvelle chanteuse, t'as juste à faire ce que tu faisais pendant les 7 dernières années, puis t'écoutes Love Your Stock. C'est le même récit pour Avenged. C'est bien plate, mais c'est un blessing qu'on a encore de la musique. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit plus comme telle affaire. Mais à la limite, voilà comme ça. Si t'aimes pas ce qu'ils ont fait post The Rev, donc Hail to the King, The Stage, puis Life is But a Dream, écoute pas.
La seule affaire qui me dérange là-dedans, c'est quand un band, on l'a souvent dit, n'a pas le choix de dire que leur plus récent album, c'est leur meilleur album qu'ils ont jamais écrit parce qu'ils veulent le promouvoir puis ils veulent pas dire « Ah, finalement, on a écrit, mais c'est
chier, écoutez pas ça. » Ils pensent aussi, parce que je sais que tu t'en vas.
Ben parce qu'ils sont là, mais parce qu'ils sont à ce moment-là dans leur vie, puis c'est ça qu'ils ont créé à ce moment-là, puis tu as souvent dit « On a mis de l'effort là-dedans, puis on a envie que ce soit bon. » Mais moi, je pense qu'on peut... C'est ça. Moi, je continue à dire que essaie quand même pas de me convaincre que ça peut changer mes préférences personnelles quand moi je pense, par exemple, que City of Evil, c'est ton album le meilleur que tu as jamais fait, puis que même si c'est nouveau, même si tu trouves ça bon, pour moi, ça n'accote pas le meilleur stock que tu as pu faire avant.
Moi, je finirais là-dessus, mais...
tu me sautes d'en face?
Non. C'est que j'ai pensé à quelque chose à faire pour nos auditeurs puis pour nous, okay?
OK?
Je vais te poser une question que j'aimerais que les gens nous répondent parce qu'on a trouvé le titre de notre album. T'es pas un vrai fan. De notre album. J'ai encore dit album, de notre podcast. T'es pas un vrai fan. Donc, premièrement, on parlait d'aimer des albums. Est-ce que t'es un vrai fan d'Avenged Sevenfold si ton album préféré, c'est Sounding of the Seven Trumpet?
Il faut que je réponde là?
Oui.
Ben, oui. Ben, ça... Moi, je pense que musicalement, on a vraiment... Ben, aïe, c'est pas facile comme question. Parce que avec Linkin Park, avec One More Light, on a souvent parlé, puis le monde qui me dit que One More Light, c'est leur album préféré de Linkin Park.
Ah, ça, je comprends pas.
Moi, ben, moi, souvent, je mens pas. Quand je dis, tu vas me regarder dans les yeux, tu vas me dire, c'est meilleur qu'Hybrid Theory. Tu vas me regarder dans les yeux, puis me dire ça.
Ouais.
D'où là, tout le débat, t'es pas un vrai fan, mais...
Mais Sounding of the Seven Trumpet, c'est leur premier album, c'est tellement différent de tout ce qu'ils ont fait après. Comment?
Ben, le lien va être avec, quand Avenged a commencé, c'était comme ça, puis après ça, ils ont vraiment changé.
Mais si c'est ton album préféré, t'aimes-tu vraiment le band?
Moi, je pense que Sounding of the Seven Trumpet, pour la variété du catalogue qu'ils ont eu, ça représente pas assez la variété pour dire que ça représente bien Avenged Sevenfold.
Non.
Puis tu sais, c'est à part peut-être, il me semble que c'est Slipknot que leur premier album est considéré comme le meilleur.
Peut-être.
Parce qu'un band évolue, un band mature et va essayer différents sons. Puis moi, j'ai toujours l'impression que.
Bon album après ça.
Puis moi, j'ai toujours l'impression qu'un band atteint son max tout le temps. Deuxième, troisième, peut-être quatrième album. Puis après ça, ils atteignent un peak qu'ils seront jamais capables d'aller.
Non, puis j'ai l'impression qu'ils savent un peu en même temps. Puis ça, je pense que. On n'en a pas parlé, mais je pense que ça a influencé beaucoup les trois albums après
ouais.
The Rev. C'est qu'ils savent, ils sont pas caves, ils savent qu'ils pourront pas jamais aller chercher ce qu'il y avait avec The Rev. Fait pourquoi essayer de faire la même chose?
Moi, c'est un peu ça qui me dérange. C'est comme tu dis, ils veulent continuer d'avancer pour un band. Fait qu'ils vont pas commencer à dire The Rev est plus là, fait que ce qu'on fait, ce sera jamais aussi bon. Ils vont continuer à explorer puis faire des choses.
Mais là, il y a une voix de moins aussi qui parle. Tu sais, il y a un creative, une personne creative qui était là, qui avait ouais. un output, qui est là de moins.
Ouais, parce qu'on parlait de la présence du drummer en tout début d'épisode. On parlait quand un drummer meurt, la différence que quand un chanteur meurt, on pense ouais. que ça peut être moins important.
Mais dans ce cas-là,
mais pour Avenged, ouais. ça a été un énorme coup, puis on ouais. l'a vu la différence avant et après.
Donc, moi, j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Pour l'instant, on est juste sur YouTube encore. Éventuellement, on va être sur d'autres plateformes.
Mais... sortez-nous votre analyse sur The Rev. On veut vous entendre. On veut continuer.
C'est pas ça que je veux entendre, moi.
C'est quoi tu veux entendre?
Je veux savoir.
On veut créer un effet de discussion.
Qu'est-ce que vous pensez? Exact. Est-ce que vous trouvez que Avenged sans The Rev, c'est quand même un excellent band? Ou est-ce que c'est un band qui vaut encore la peine d'être écouté?
Ou même une question plus directe. C'est-tu meilleur avec The Rev ou maintenant? Parce que si... parce que si tu penses que c'est meilleur maintenant... On n'est pas fermé, on veut vraiment écouter, puis on veut peut-être qu'il y a des choses à qui on n'a pas pensé, peut-être que musicalement, j'ai parlé tantôt au niveau des techniques de drum, que moi ouais. je ne me considère pas comme un drum, mais il y a peut-être des subtilités ouais. musicales que moi je ne connais pas assez, la construction d'une chanson que j'ai pas pris attention dans les nouveaux albums, que toi, vous, que vous connaissez mieux que nous.
Ouais. Venez
nous dire, à nous, qu'on n'est pas des vrais fans.
Ouais, qu'on n'est pas des vrais fans. Ma deuxième question, ce serait quel est votre album préféré d'Avenged? Vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires, ça nous intéresse beaucoup.
Peut-être que lui qui a le plus grand vote, on fait notre première review sur cet album-là. Peut-être. Pourquoi pas?
Puis celui qui a le moins de votes, on dit qu'il n'a pas raison?
Non.
Non.
On a souvent dit c'est une question de goût.
On aime, oui. Puis on s'est moqué un peu des gens qui. Mais tu sais, c'est correct que c'était One More Life de Linkin Park. T'es peut-être juste pas un vrai fan. Mais, mais au final, et ma dernière question, c'est un peu celle que je t'ai posée. Est-ce que vous pensez que quelqu'un que son album préféré, c'est Sounding of the Seven Trumpet, est-ce que vous pensez que c'est un vrai fan? Pas un vrai fan, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il...
Moi, je pense qu'il a dû arrêter de suivre pour maintenir que c'est son band préféré.
Je peux pas voir du contenu à écouter ça si c'est ton album préféré. Mais j'en ai vu dans les commentaires. Donc, on aimerait ça vous entendre. C'était notre dernier épisode de la courte saison qu'on a eue. On vous revient en janvier avec... Je peux pas le dire, mais j'ai tellement hâte de notre prochain épisode de janvier.
Ah ouais.
On va peut-être prendre une petite pause pour essayer d'en filmer un peu plus, puis en sortir un peu plus.
De manière plus régulière. Voilà. Puis là, vraiment dire, on va en sortir un à tel écart, pas être comme là, Tracks pour avoir une gang de menteurs.
Là, on commence à avoir un nom, on commence à avoir un genre de décor.
Tu parlais du fame.
Il va falloir qu'on commence à être un petit peu plus assidu. Donc, merci de nous écouter à date. On adore lire vos commentaires, puis continuez à nous donner des feedbacks. On adore ça. Merci énormément. Donc,
on vous souhaite un beau ou un...
Ben, joyeux Noël, parce qu'on veut...
Ouais, c'est le temps des fêtes, mais pour les fans d'Avenged, on est avec vous. On souligne...
Le 28.
L'événement de la mort de Rare. Ça fait déjà 15 ans. On a vécu la même affaire que vous. On a trouvé ça tough. Si vous voulez nous parler... Tu sais, quand on dit, nous autres, comment on a vécu ça, si vous voulez nous raconter, vous aussi,
votre vidéo, quand vous avez appris... Exactement, oui. Oui, je serais vraiment intéressé, effectivement. Ouais. En fait, tout ce qu'on parle, on serait vraiment intéressé d'avoir...
C'est la première chanson d'Avenged que tu as entendue, si on dit comment ouais. ça a été introduit pour ouais. nous, ben pour vous aussi, on trouve ça intéressant d'entendre ouais. vos histoires, fait n'hésitez pas.
Ouais, exactement.
Bonne année 2025. Bisous. On vous aime puis on se revoit bientôt.
Yo, j'ai pas fait fucking notes, man.
Ben là, ils sont là.
Moi, mes deux tunes que j'aime le plus de cet album-là, non, c'est pas vrai, il y en a plein, mais Critical Acclaim.
Attention,
et
album review.
Oui.
Critical... Tu t'emportes tout le temps oui, avec ça.
Critical Acclaim, puis...
T'es le premier à dire qu'on fait pas d'album review, puis tu veux tomber dans les tunes.
Je voulais juste... OK, parfait, je dis pas de titre. Je dis Critical Acclaim, je dirais pas la deuxième.
T'es pas un vrai fan est une idée originale de Julian et JP.
Pour nous suivre et être au courant de tout, venez visiter la page Instagram PasFanPodcast.